Oui, donc on a conseillé aux organisateurs de me contacter pour parler un peu de ce qu'était la politique de la promotion de la santé à l'école en communauté française, mais je ne fais partie ni d'un cabinet ministériel ni d'une administration. Toutefois, je m'y retrouve un peu quand même dans ce qui se passe en communauté française au point de vue de la promotion de la santé à l'école, parce que l'APES est un service agréé par la communauté française dont l'agrément a été confié à une équipe universitaire de l'Université de Liège. Et la fonction de cette équipe est vraiment de travailler l'interface entre les professionnels de toute première ligne qui développent la promotion de la santé, les politiques qui, eux, essayent effectivement par une série de mesures de faire progresser la santé et la promotion de la santé, et la recherche, donc dans tous les aspects, je dirais, de connaissances scientifiques sur le domaine. Donc nous sommes vraiment à cette interface. J'ai accepté d'autant plus facilement que début juillet, j'ai eu l'occasion de participer à un colloque mondial sur promotion de la santé à l'école et développement durable. Et donc je crois que les enjeux dont on a commencé à discuter avant la pause sont vraiment au cœur de l'actualité internationale et en tout cas au cœur de la réflexion des professionnels et des chercheurs en promotion de la santé à l'école. Cet avant-midi, j'ai beaucoup entendu parler dans les interventions d'éducation pour la santé. Donc, je me suis dit, avant de vous présenter les initiatives de la communauté française dans le domaine de la promotion de la santé à l'école, je pense que je dois faire un petit détour pour redonner un cadre, pour essayer de vous introduire ce qu'est le cadre de la promotion de la santé. Je pense que c'est important parce que le cadre de la promotion de la santé est beaucoup plus proche, en tout cas de la notion de développement durable, que le cadre de l'éducation pour la santé. Une définition, comme il en faut toujours, la promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d'améliorer celle-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Trois éléments que nous mettons en évidence. C'est que la conception de la santé telle que nous la travaillons en communauté française, mais ça correspond aux standards internationaux, intègre le bien-être physique, mental et social et la notion de pouvoir vivre, se développer, vivre et mourir, je dirais, vivre, se développer et mourir en équilibre avec le contexte social et le contexte environnemental. Ça intègre aussi une vision globale des déterminants de la santé. Je vais revenir là-dessus parce que c'est très important. Et ça, la promotion de la santé place toujours au centre de ses actions les personnes et les communautés de vie. Le point B est un point sur lequel je vais m'arrêter un peu parce que c'est pas toujours bien évident pour les gens qui ne sont pas du domaine. C'est que quand on regarde l'état de santé d'une population, on se rend compte que ce qui détermine la santé d'une population, ce n'est pas majoritairement la qualité du système de soins, mais c'est bien l'ensemble des autres facteurs qui influencent la santé. Je ne vais pas expliquer ce modèle, simplement je crois que c'est important que vous l'ayez vu, puisque c'est le schéma qui sert maintenant de référence pour essayer d'expliquer et de visualiser l'ensemble des déterminants de santé. Il y a eu un groupe de travail qui s'appelait le groupe Détermine à l'Organisation mondiale de la santé qui a produit tout un rapport pour essayer de concrétiser l'ensemble de ces déterminants qui tiennent des communautés de vie, qui tiennent de la vie sociale et de l'organisation sociale, qui tiennent aussi des conditions socio-économiques, culturelles et bien sûr environnementales. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Ce petit schéma, nous l'utilisons souvent pour montrer que vous voyez la personne là, qui est schématisée, l'ensemble des risques pour la santé. Il y a eu une époque où on travaillait sur les ressources personnelles et les comportements des gens pour essayer qu'ils puissent passer au-dessus des risques pour leur santé qu'ils vont rencontrer tout au cours de leur vie. Et puis vous voyez que si on peut aussi travailler pour essayer de diminuer la pente que l'individu va devoir grimper pour conserver sa santé au fil de sa vie, et c'est bien le travail sur tous ces déterminants qui sont et l'environnement au sens physique du terme et l'environnement au sens social ou sociétal du terme. Ce qui veut dire, si d'un côté on travaille l'éducation, les ressources personnelles et les comportements, de l'autre côté, ça ne se conçoit pas de travailler l'éducation en promotion de la santé si on n'essaye pas d'agir en même temps sur la création de conditions du milieu qui sont plus favorables, et donc de diminuer le poids de la charge et de la responsabilité qui pèse sur l'individu.
La moitié.
Je suis à la moitié. Ce qui veut dire que je vous montre ici, c'est les 5 stratégies très officielles de la promotion de la santé qui ont été définies par la charte d'Ottawa. Je ne vais pas toutes les reprendre. J'insiste simplement sur la deuxième, créer des milieux et des conditions de vie favorables à la santé. Et la quatrième, favoriser le développement des aptitudes individuelles. Vous voyez donc que l'éducation n'est qu'une des stratégies parmi tout un ensemble. Venons-en maintenant à la promotion de la santé à l'école. Alors, pour avoir été un peu découvrir ce qui se passait dans le domaine du développement durable à l'école, notamment grâce à nos collègues suisses dont on a déjà beaucoup parlé aujourd'hui, j'ai repris quelques critères de qualité qui me paraissaient intéressants parce que je crois qu'il y a des communautés avec le développement de projets de développement durable à l'école, tel d'ailleurs qu'on vient de nous les décrire dans le projet MOS. On doit toujours être attentif au préalable, c'est-à-dire comment mobiliser une communauté qui est une communauté scolaire. Alors on peut la mobiliser de l'extérieur ou on peut travailler sur des demandes qui émergent de l'école parce qu'on connaît un cas difficile, ça peut être de la consommation de drogue, parce qu'on a été interpellé sur la mauvaise alimentation, parce qu'on a été interpellé sur des problèmes de sécurité. L'école peut formuler des demandes vis-à-vis d'experts ou d'organismes extérieurs, et c'est important de pouvoir travailler ces demandes pour permettre de faire émerger des projets sur le long terme et des projets qui vont s'attacher aux fameux déterminants de la santé. Il s'agit qu'on analyse les enjeux, les contraintes et les ressources. Je crois qu'on en a déjà parlé quelques-unes ce matin. Après ça, on doit regarder par rapport aux problèmes de santé que l'on évoque, qu'est-ce que l'on a comme données. Et les données, on peut par exemple les trouver dans les services de santé scolaire, qui peuvent vous dire, dans la population, voilà les problèmes qui, la population de cette école, voilà les problèmes qui se posent. Mais c'est important aussi d'interroger les enseignants, les éducateurs, les parents sur quelle est leur perception de la santé des élèves et de ce qui pose problème à un moment donné. Et c'est important aussi d'interroger les élèves sur est-ce qu'ils se sentent en bonne santé, est-ce qu'ils ne se sentent pas en bonne santé, et pour eux, c'est quoi leur problème de santé actuel. Quelquefois, entre ces trois sources d'information, on a des paradoxes. Après, on travaille en essayant d'impliquer au maximum ce qu'il est convenu d'appeler les parties prenantes dans la littérature internationale, c'est-à-dire la communauté éducative au sens large, et en ce compris la communauté locale, et puis d'essayer de se donner des ressources pluridisciplinaires et des références. Et enfin, on essaye de faire émerger des projets dans les écoles qui portent sur des apprentissages, donc ce qu'on appelle communément le curriculum formel, et qui portent aussi sur la manière dont on vit la santé au quotidien dans l'école, donc le curriculum non formel. Je passe sur cette DIA parce que je pense que mon collègue néerlandophone a dit à peu près la même chose. Vous voyez qu'on parle de sciences critiques, d'apprentissage aux sciences critiques, de travailler les représentations, l'information, d'apprendre à connaître des informations scientifiquement validées et d'assurer un socle de compétences psychosociales. Je passe à ce schéma qui est un peu plus parlant peut-être. Il vient donc de nos fameux collègues suisses. On voit qu'en promotion de la santé, on peut avoir des entrées assez thématiques. Donc la santé des élèves, la santé des enseignants qui fait partie prenante de la promotion de la santé, l'activité physique, l'alimentation, la violence, la suétude, l'addiction selon le pays où on se place, la sexualité. Mais on travaille aussi sur le développement global de l'élève en tant que personne et en tant que membre d'une communauté, en tant que citoyen. Et on peut travailler aussi sur l'environnement. Dans les programmes scolaires et dans les structures scolaires, on trouve des éléments, des objectifs, des compétences qui touchent au développement global. Mes collègues suisses ont mis à l'environnement aussi, ça je ne sais pas si c'est tout à fait juste chez nous. Et l'on voit qu'il y a une série de compétences transversales, la participation, l'empowerment, l'égalité des chances, la durabilité, plutôt que des compétences, je dirais des critères de qualité transversaux, que l'on retrouve en dessous des projets éducatifs des États ou des régions ou des écoles, et qui sont aussi le socle aussi bien pour l'éducation relative à l'environnement que pour la promotion de la santé. Quand on développe les écoles en santé, en tout cas dans le cadre de référence qui est tracé au niveau mondial, et alors j'avais fait venir de Paris toute une série de plaquettes pour vous les donner aujourd'hui, mais la poste a été un peu lente, 10 jours n'ont pas suffi pour amener les plaquettes, donc je vous mettrai le lien sur le site de cette journée. Quand on développe l'école en santé, on essaye de travailler l'ensemble de ces dimensions et donc pas seulement les thématiques santé. Bon, venons-en maintenant à la structure, à ce que propose la promotion de la santé en communauté française. En communauté française, ce qui touche la promotion à la santé dépend de 2 gros décrets. Le dernier date de 1997, c'est le décret qui porte organisation de la promotion de la santé et de la médecine préventive, de façon tout à fait générale. Et alors, nous avons un décret en 2001 et 2002 qui régit la promotion de la santé à l'école. Mais quand on dit promotion de la santé à l'école, il y a d'emblée une ambiguïté, puisque ce décret promotion de la santé à l'école, en fait, concerne les services de santé scolaire, auparavant appelés inspection médicale scolaire. Alors, du côté des services de santé scolaire, donc ce sont des services subventionnés ou des centres PMS pour la communauté française qui ont les missions de santé scolaire, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent faire des bilans, ils font les bilans de santé, c'est obligatoire, à un certain nombre d'étapes dans l'enseignement. Ils font de la prophylaxie, ils organisent des points santé dans l'enseignement supérieur, ils recueillent des données sur la santé des élèves et alors ils peuvent soutenir le développement de programmes de promotion de la santé et favoriser un environnement scolaire favorable à la santé. Cette dernière mission, programme de promotion de la santé et environnement scolaire favorable à la santé, ils y consacrent normalement 20% de leur temps. Le gros du temps des services de santé scolaire est évidemment occupé par les bilans de santé et les vaccinations. Enfin, je dis évidemment, je ne devrais pas dire évidemment, mais c'est connu que c'est occupé par les bilans de santé et la vaccination. Donc ça, c'est vraiment le service qui touche le plus près l'école. Alors, nous avons des services généralistes qui dépendent du décret de 97, qui sont les centres locaux de promotion de la santé, auprès desquels les écoles peuvent trouver de la documentation. Les centres locaux coordonnent aussi les initiatives de promotion de la santé sur leur territoire, qui sont grosso modo le territoire d'un arrondissement, d'une province quand on est dans le Luxembourg ou le Namurois. Et les centres locaux peuvent aussi fournir un appui en matière de prévention des assuétudes. C'est les fameux points d'appui assuétudes. Il y a aussi, et là vous retombez sur le service que je dirige, les services communautaires de promotion de la santé, qui ont des missions pas seulement vis-à-vis de l'école, mais qui, vu les compétences de la communauté française dont ils dépendent, peuvent, comme question santé, diffuser des brochures sur le programme Manger Bouger ou sur des petites brochures promouvoir la santé à l'école. Le service ULB CIPES qui organise tous les 4 ans les enquêtes sur les comportements de santé des élèves dans les écoles. Le service de l'UCL qui s'appelle Réseau et Paresp, c'est une erreur, qui peut faire le point sur l'ensemble de la donnée, des données scientifiques. Et alors ben, nous-mêmes qui avons deux grosses missions, la mission de soutenir la promotion de la santé à l'école et aussi la mission de soutenir le développement d'évaluation des actions et des politiques. Alors, je ne peux quand même pas arrêter mon exposé sans vous parler des plans très officiels qui peuvent intervenir dans le domaine de la promotion de la santé et notamment du plan Attitude Saine. Et les données que je vous ai mises sur la DIA datent d'avril 2009, le moment où le secrétariat général de la communauté française en a fait une évaluation. Ce plan comportait 46 actions, dont 34 ont été mises en œuvre. Et sur ces 34 actions, un certain nombre étaient orientés vers le milieu scolaire. C'est un plan interministériel entre les ministres de la Santé, du Sport et de l'Enseignement. Se posent des questions sur sa pérennisation, sur la cohérence entre les actions et sur la dynamique du plan. Dans le cadre de ce plan, deux personnes avaient été détachées de l'enseignement pour fournir des conseils en matière de développement des projets alimentation. Et une personne avait été détachée à l'administration de l'enseignement pour coordonner le tout. Vous voyez, il y avait des actions diverses. J'ai peut-être oublié, dans les services généralistes subventionnés par la promotion de la santé en communauté française, trois éléments importants. La médiathèque de la communauté française, parce que ça c'est un point commun peut-être avec l'air. Le service PIPSA qui développe un site où il met en ligne les outils pédagogiques interactifs en matière de promotion de la santé et des outils qui ont été analysé par un certain nombre d'experts, et donc quand vous regardez l'outil, vous avez en même temps des avis d'experts pour vous dire à quel niveau scolaire est-ce que c'est le plus adapté, quel type d'objectif est-ce que ça permet surtout de réaliser. Et alors peut-être vous parler de la revue, pour ceux qui ne la connaissent pas, de la revue Éducation Santé, qui est une revue que vous pouvez obtenir gratuitement. Alors, j'ai pointé avec ma maigre connaissance de l'éducation au développement durable des enjeux et des défis qui, à mon avis, sont des points communs entre l'éducation au développement durable et la promotion de la santé. C'est l'apprentissage d'une approche démocratique et d'une démarche citoyenne qui donne une place à chaque acteur dans la communauté scolaire, périscolaire et la communauté locale, et qui participe de la création d'un climat d'école ouvert et sécurisant. Et quand je dis sécurisant, ce n'est pas seulement pour les élèves, je pense beaucoup à la santé des enseignants et des éducateurs. Des approches globales de l'école qui vont dépasser les apprentissages en classe et qui œuvrent à l'équilibre avec le milieu de vie, et l'apprentissage de compétences de vie. Avec une question qui est vraiment à l'agenda de la promotion de la santé, c'est la réduction des inégalités sociales. Parmi les défis de mémoire, je pointais la question du temps et des organisations. Effectivement, du temps pour travailler ensemble, puisqu'on voit bien que l'un ou l'autre des domaines nécessite qu'il y ait des personnes de compétences différentes, des enseignants, des éducateurs, des élèves, et puis des personnes de ressources extérieures qui se mettent autour de la table. Et il faut trouver du temps, et ça c'est le gros défi dans l'école avec le fonctionnement très chargé, je dirais, on a beaucoup de mal à trouver ce temps. Des espaces, des endroits pour se réunir et se concerter. Des partenariats et une culture commune à développer entre les différents secteurs, niveau de pouvoir et les responsables politiques et administratifs. Donc vous voyez, je crois qu'on l'a dit ce matin, là, c'était pas un scoop. Et je pense des équilibres qui doivent être construits entre des intervenants spécialisés qui peuvent apporter un appui conjoncturel aux établissements scolaires et puis des acteurs internes au dispositif de l'enseignement que ce soit des acteurs généralistes, je dirais, comme les enseignants, puisqu'ils travaillent sur toutes les facettes de l'éducation et du développement, outre leur spécialisation thématique, je dirais, dans l'enseignement secondaire, mais aussi des acteurs permanents tels que les PMS et les services PSE, donc promotion de la santé à l'école. Je pense que là, on n'est pas encore vraiment au bon point d'équilibre. Une deuxième fois, merci.